Yo Garfunkel, ça farte? Alors t'en es où?
Hé, hey, mais c'est ma pote Smart Salmon, ça va cousine? Ça faisait au moins 2 jours que j'avais pas de nouvelles.
Bah ouais, j'ai fait ma 3e dose de vaccin, ça m'a mis une grosse claque.
Ah bon? Mais je croyais que t'étais anti-vax.
Mais y'a rien à faire, ils sont trop forts. Ils t'aspirent dans des tuyaux, après c'est tapis roulant. Ils te chopent et claque, avec une pince, injection. Tu peux pas lutter. C'est horrible, imagine, genre un taser géant à bout portant.
Ah ouais, c'est chaud.
Bon, mais vas-y, raconte-toi. Alors, t'as rejoint la mer ou quoi?
Eh oui, là d'où je te parle, c'est l'immensité autour de moi. Des millions de poissons trop chelous. Des krills délicieux. Je regrette pas le voyage. T'as liké ma story?
Bah oui, évidemment. En vrai, je suis jalouse de ouf. T'as trop une belle vie. Les rivières, c'est l'aventure.
Ouais, bah c'est pas super fun non plus, hein. J'ai quand même tous mes frangins et frangines qui sont morts sur la route. En plus, j'ai des poux, et la bouffe ici, c'est quand même un peu chargé en métaux lourds. Toi, t'as tout le confort moderne. Ici, c'est la jungle.
Je vais te dire un truc. Le confort moderne, j'en ai rien à foutre. On est des milliards de poissons identiques, les uns sur les autres. On n'a jamais vu un caillou, une algue, une crevette. On bouffe du soleil vert, des antibios. Moi, ce que je voudrais, c'est la liberté, même quelques heures. Je suis prête à tout. On monte un collectif. Trop d'éther, on va faire une action anti-humain. Il y a des potes qui ont hacké le système d'évacuation. Et on va se faire la belle, cousin. On va voir le ciel. C'est bientôt et je crois que tu vas entendre parler de nous. Commando Bluezy. Il y a même des humains qui pourraient nous aider.
On a... Un modèle breton ébloui par le culte du progrès technique.
On veut aussi que l'Europe arrête de subventionner en fait l'agrandissement des élevages.
Un système qui industrialise le vivant et qui nous fait aller droit dans le mur.
On continue à construire des trucs à la con, mettre du bitume partout et...
Tous les mardis, on vous propose de diversifier vos placements. Vous pouvez notamment acheter des forêts pour enraciner vos placements.
Du pain et des parpaings.
Lutte contre l'accaparement des terres en Bretagne et ailleurs.
Comme on dit, hein, fin du mois, fin du monde, il y a quand même une passerelle qui a été lancée.
Si on veut un monde meilleur, il faut déjà qu'on ait un monde.
Salut et bienvenue dans Du pain et des parpaings, une émission mensuelle sur les luttes contre l'accaparement des terres, la gentrification, l'agro-industrie, le capitalisme vert, le pourrissement des écosystèmes, le colonialisme et l'extractivisme des corps et des matières. Sur le plateau, Lulu, Romain, Étienne, Elsa, Caro et Marion. Salut.
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 Salut. Salut.
Pour cette 5e émission, on est allé à Plouizy dans les Côtes d'Armor, où le collectif d'Ouryougwe se mobilise depuis plusieurs mois contre un projet d'usine à saumon. Et pendant l'heure qui vient, on va revenir sur cette lutte avec Jean Sarrazin du collectif d'Ouryougwe et on se penchera plus largement sur les questions de surpêche et d'élevage industriel.
Oui, c'est un nouveau petit projet industriel sympa par chez nous. Une usine dernière génération de production de saumon d'élevage de la firme norvégienne Smart Salmon qu'elle aimerait bien implanter à Plouizy à côté de Guingamp. On se dit chic alors, on va pouvoir se taper du saumon local à Noël et en plus sans contribuer à la surpêche de poissons sauvages. C'est pas du Guingamp gagnant ça ?
Mais pour commencer, qu'est-ce qu'il a donc de particulier ce poisson ?
Eh bien, tout d'abord, le saumon, ou salmo salar, est un poisson migrateur. Après 2 à 3 années en rivière, parfois plus, il est prêt à s'en aller en mer au printemps. C'est à cette période que le saumon ado mémorise l'odeur de sa rivière, c'est la smoltification. À la crue du printemps, il dévale vers la mer. La grande majorité des saumons quittera les estuaires pour entreprendre une migration qui les conduira sur les côtes du Labrador, de Terre-Neuve et du Groenland. Notre saumon y passera 1 à 3 ans avant d'entamer son retour par les bassins versants.
Il y a moins de 2 siècles, il y en avait tellement à sauter gaiement dans les cours d'eau de France que les ouvrières et ouvriers des manufactures en bord de rivière se battaient pour n'en manger qu'une seule fois par semaine. Quand on habitait un peu plus loin, c'était un mets qu'on ne dégustait qu'une fois dans sa vie pour une grande occasion. Puis, une fois par an, pour le baptême, le mariage, la communion, etc. Et aujourd'hui, quelle boulangerie ne vend pas son sandwich nordique? Quel supermarché n'a pas son rayon poisson fumé? Et quelle ville n'a pas son restaurant de sushi?
Bon, mais ils en sont où, les saumons, aujourd'hui? Surpêché, pas surpêché? Ça se pêche où d'ailleurs, ce bestiau?
Bah pas si loin. Ici, par exemple, dans le Finistère, le saumon remonte encore des rivières comme les Lornes, le Trieux ou plus loin dans le Scorff et même la Loire et l'Allier. Mais question pêche, faut y aller mollo, hein, parce que ce grand poisson migrateur a vu son nombre dans nos rivières drastiquement baisser depuis 2 siècles, subissant les aménagements lui barrant la route et ou les pollutions majeures et régulières dont les rivières font les frais en silence. Imaginez notre saumon revenir de Terre-Neuve et devoir faire face aux barrages hydroélectriques, aux réservoirs d'eau pour l'irrigation, aux installations d'extraction de sable, aux pollutions chimiques, agricoles, industrielles, ménagères, à l'assèchement des cours d'eau, à la navigation, et on en passe.
Sur les Lornes, dans les années 70, par exemple, on en décomptait 500 à 1000 saumons de printemps. C'est des saumons qui remontent pour la première fois dans les rivières pour pondre. Quand aujourd'hui, on en compte plus que 130 à 150.
En plus de galérer à rejoindre son lieu de naissance dans les rivières pour y pondre à nouveau des œufs, il semble que le roi des poissons subisse aussi une très forte mortalité en mer, dans les eaux froides de l'Atlantique Nord où il passe le reste de l'année. Ici, bon, on reste dans le domaine du théorique, on ne sait pas quels facteurs entre surexploitation par la pêche, disparition de sa nourriture, les krills, les petits poissons, etc., et effet du réchauffement climatique sont le plus à l'œuvre dans cette mortalité, qui l'a conduit à être classé comme espèce vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature.
Bon, du coup, on a l'impression que c'est plutôt une bonne idée, là, ces saumons d'élevage, non?
Bah, le problème, c'est que niveau surpêche, ça ne touche pas directement le saumon, mais une grande quantité d'autres poissons, surpêchés et réduits en farine. Pour les saumons d'élevage, il faut, pour 1 kg de saumon, 2,5 à 5,5 kg de farine, même si Smart Salmon se vante de pouvoir nourrir 1 kg de saumon avec 1 kg de farine grâce à des nouvelles technologies. Des farines animales donc, issues de poissons sauvages, dits poissons fourrage, pêchés de façon industrielle, notamment en Afrique de l'Ouest. Voilà ce qu'on en dit sur place.
J'ai commencé la pêche il y a bien longtemps, il y a plus de 30 ans. Je m'appelle Yag.
Aujourd'hui est un jour encore plus mauvais que les autres. Les filets sont vides.
Quand on va au large, on voit les bateaux étrangers. C'est à cause d'eux qu'on n'a plus de poissons. Avant, nous étions prospères. Mais depuis l'arrivée des bateaux industriels, les poissons disparaissent. Et ces bateaux sont très nombreux ici.
Les poissons se faisant plus rares, les chalutiers étrangers n'hésitent plus à empiéter progressivement et illégalement dans les eaux poissonneuses de l'Afrique de l'Ouest, notamment au large du Sénégal. Obligeant ces hommes à pêcher de plus en plus loin.
On fait la course avec ces bateaux industriels. Quand ils nous aperçoivent, ils viennent vers nous pour nous voler la pêche. Du coup, on se retrouve avec des filets abîmés. En plus, la plupart des pirogues entrent en collision avec ces bateaux. Au final, tout ce que l'on récolte, ce sont des morceaux de pirogues détruites. Tire, vas-y, tire bien le filet. Retiens-le bien.
Cette mer est une route nationale où se côtoient les pirogues et les cargos. Depuis quelques années, les collisions sont de plus en plus fréquentes.
C'est des prête-noms, ce n'est pas des bateaux sénégalais. Il y a des matelots sénégalais, mais quand tu vas monter sur le bateau, tu vas voir que c'est des étrangers. Le bateau est étranger, le capitaine est des étrangers, et le débarquement va en Europe. Et eux, ils mettent des lames qui détruisent d'abord les habitats de ces poissons. Ils n'ont pas des filets sélectifs. C'est des filets qu'on appelle des filets chaussettes, qui ravagent tout. Ils ciblent des espèces, mais ils pêchent tout. Donc les 80% de leur pêche, ils les rejettent en mer. Ils sont en train de transformer les eaux sénégalais en désert liquide.
Un désert liquide donc, et des pêcheurs locaux qui ne peuvent plus vivre de leur artisanat. Pour de belles tranches rosées sous cellophane ou trônant dans la boîte plastique d'un sushi shop, encore une fois, on dirait qu'on est à côté de la plaque. Et il semblerait qu'on nous vende ça comme durable. D'après l'association Bloom, les flottes industrielles capturent 35 millions de tonnes de poissons par an, qui sont transformées en farine animale pour les élevages de volailles, de porcs et de poissons, et rejettent entre 8 et 20 millions de tonnes de poissons par an, alors que 90% de ces poissons sont comestibles par les humains.
Plus généralement, la surpêche ne concerne pas que les côtes d'Afrique de l'Ouest, mais bien tous les océans du globe, avec notamment l'Atlantique Nord, où WWF estime qu'au moins 39% des masses de poissons sont surexploitées et où les saumons sauvages y passent leur vie d'adulte. Ces poissons surexploités le sont aussi au détriment de l'alimentation de ces saumons sauvages, puisqu'une partie intègre leur chaîne alimentaire. C'est sur les côtes de l'Atlantique Nord et plus particulièrement en Norvège que le modèle d'élevage de salmonidés a été inventé et s'est développé.
Vous êtes bien sur du pain et des parpaings et vous avez du sushi à vous faire.
Alors on parlait de la Norvège et moi la Norvège ça me fait penser aux grandes étendues sauvages et enneigées avec la mer glacée, des fjords imposants, presque mystiques. C'est aussi des glaciers grandioses qui n'ont pas été encore colonisés par les humains. C'est le spectacle magique et unique des aurores boréales. Enfin bon, j'y suis jamais allée et c'est que le produit de mon imagination. Mais bref, j'y vois une nature sauvage, brute, une mer hostile qui nous fascine et que l'on admire. Mais que nenni mes amis! Car comme partout dans le monde néolibéral occidental, des êtres humains ont eu la merveilleuse idée de vouloir dompter et asservir la nature pour se faire de l'argent et se payer des vacances en yacht à Monaco avec leurs potes banquiers, patrons du CAC 40 et politiciens. Et nous voilà donc embarqués dans la fabuleuse odyssée du saumon d'élevage norvégien. Alors on parle de quoi exactement ? La Norvège, avec ses 21 000 km de côte, c'est deux fois le linéaire français, s'est spécialisée dans les pêcheries et s'impose comme le deuxième exportateur mondial de poissons après la Chine. Ce secteur de l'industrie agroalimentaire a rapporté 6,7 milliards d'euros en 2022, soit l'équivalent de 5,5 millions de SMIC, pour vous donner une idée concrète de la moula que ça brasse, avec des chiffres qui vous parlent, chers auditeuristes. Et oui, le saumon d'élevage en Norvège, c'est 5,5 millions de personnes au SMIC pendant un an. C'est la deuxième ressource de la Norvège après le gaz et le pétrole, donc ce n'est pas un détail. En plus, le saumon serait super bon pour la santé, c'est plein d'oméga 3 qui nous protège des maladies cardiovasculaires, c'est plein de vitamines, de bonnes protéines, de calcium. Bref, c'est LE poisson star des tables de Noël chez mamie et des pokéballs que tu manges à la pause déjeuner avec tes collègues. Mais ça fait quoi concrètement d'élever du saumon en mer ? Eh bien, ce ne serait pas si bon que ça, ce serait même un désastre sanitaire et écologique. En fait, la salmoniculture en Norvège, ça revient à entasser des saumons dans des cages qui tombent malades, car ils sont beaucoup trop nombreux au mètre carré. Du coup, pour ceux qui ne meurent pas asphyxiés, on les vaccine et on les gave de pesticides pour qu'ils résistent aux maladies et aux parasites. Coucou le bien-être animal. Et puis, ensuite, on les nourrit avec des poissons pillés en Afrique de l'Ouest et avec du soja d'Amérique latine bourré d'OGM. Coucou les entreprises postcoloniales. On se retrouve alors avec des saumons qui suffoquent et qui nagent dans leur propre déjection. Au-delà de cette vision d'horreur, il faut savoir qu'il y a des tonnes de déjections qui tombent au fond de l'eau, et là, c'est le début du cercle infernal. Et oui, car le caca dans l'eau, ça crée plein de problèmes et de pollution, comme on vous l'a expliqué lors de la dernière émission sur la gestion de l'eau. Là en particulier, il y a tout l'azote du caca des saumons qui va recouvrir les fonds marins et priver les organismes d'oxygène. C'est ce que l'on appelle l'eutrophisation des milieux. Il n'y a donc plus rien de vivant sous les cages d'élevage. Plus d'algues, plus de petits poissons, plus de coquillages, plus d'air, plus de vie. Et puis, les élevages de saumon sont remplis de parasites, notamment de poux de mer que l'on va traiter avec du difflubenzuron, un pesticide théoriquement interdit dans les milieux aquatiques par la réglementation européenne. Même Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Agriculture sous Sarkozy, avait écrit à son homologue norvégienne pour lui demander des explications. L'assiette de saumon fumé qu'il avait mangé au forum de Davos avec ses potes du MEDEF n'avait pas dû très bien passer. Il a sûrement eu peur pour sa santé. Donc on se retrouve avec des saumons bourrés de vaccins et de pesticides dans nos assiettes qui peuvent nous provoquer des cancers, mais aussi des saumons sauvages déjà malmenés par le changement climatique et la surpêche qui se retrouvent malades à cause de l'agro-business, des écosystèmes bousillés où la vie n'est plus possible et des fjords complètement pollués. Bon, c'est cauchemardesque quoi. Et là tu te dis « Oh mais moi c'est bon, je mange du saumon bio !» Oui mais voilà, le saumon bio d'élevage mange des produits issus de filières bio, certes, donc c'est mieux que du poisson pillé en Afrique et des céréales pleines d'OGM, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas vacciné, ni exempt de pesticides, et encore moins élevé avec de l'espace en dehors de cage. Et en plus, le saumon bio pollue tout autant. Bah oui, il fait caca, comme tout le monde quoi.
Ce n'est pas parce que c'est bio que c'est OK pour la nature, les animaux et les humains. C'est mieux de savoir d'où proviennent les produits que l'on mange, car l'agro-business n'a aucune limite. Et oui, pour gagner quelques points de compétitivité et soi-disant nourrir la planète, les industriels et nos élus semblent prêts à sacrifier la santé des consommateurs et toute forme de vie sur Terre, comme en mer d'ailleurs. Mais tiens, ça me rappelle une petite chanson que l'on entend beaucoup en Bretagne, avec des cochons entassés dans des cages et des rivières complètement polluées, et puis des algues vertes qui pourrissent et qui font mourir des gens en bord de mer. Oups, je crois qu'on touche quelque chose du bout du doigt là. Bon, et vous savez quoi? La France, c'est le premier importateur mondial de saumon norvégien. Eh ouais, trop bien la nouvelle. Allez, moi je vous laisse avec Pure Salmon, une superbe entreprise norvégienne qui est en train de mener une révolution dans la production du saumon pour sauver et nourrir le monde. Il s'agirait d'élever des saumons sur terre, loin de la mer, de manière complètement hors sol, dans des cuves en béton avec de l'eau qui serait recyclée dans un circuit fermé. On écoute leur publicité, on vous laisse juger par vous-même.
Imaginez un futur d'océan cristallin, un futur dans lequel nous pourrions profiter de la meilleure qualité de poisson tout en veillant sur notre planète et sur les générations à venir. Pour atteindre ce but, le monde doit surmonter la crise actuelle de l'approvisionnement de poissons sans faire de dommages et sans exploiter les océans. Avec l'augmentation globale de la population, les méthodes actuelles d'approvisionnement de poissons ne pourront bientôt plus répondre à la demande croissante des consommateurs. Cela signifie que l'industrie des produits de la mer a un besoin urgent d'innovation et de solutions soutenables. Pure Salmon est en train de mener une révolution dans la production du saumon en circuit fermé. Nous nous engageons dans un futur où le saumon est produit de façon soutenable. Pure Salmon utilise des technologies d'installation aquacole en circuit intégré, ce qui signifie que nous pouvons élever nos saumons de l'œuf à la collecte dans un environnement intégralement contrôlé. Nous créons des conditions de vie saines pour nos saumons, qui reproduisent fidèlement les qualités positives de l'environnement naturel. L'eau est constamment recyclée et filtrée afin qu'elle reste toujours pure et propre, ce qui assure la santé et le bien-être de nos poissons. Nos installations aquacoles ont un fonctionnement qui n'a aucun impact négatif sur les écosystèmes des océans, et nos poissons grandissent avec de la nourriture soutenable. L'environnement entièrement biosécurisé signifie que notre saumon n'a ni antibiotiques, ni pesticides, ni hormones et aucun microplastique. Au final, nous aurons un impact significativement positif sur la santé de nos consommateurs, de notre planète, des économies locales dans laquelle nous nous intégrons, tout en préservant l'écosystème des océans. Et nous avons déjà commencé. En Pologne, notre première installation opérationnelle produit du saumon sain et délicieux. Smart Salmon, cultivons la crème de la crème.
Bah voilà, donc depuis une vingtaine d'années, il existe une solution high-tech pour élever des saumons complètement hors milieu naturel. Ça ne dérange pas les industriels, hein, donc c'était Marine Harvest au début, on a Pure Salmon, Smart Salmon et sûrement d'autres entreprises de ce genre-là, des entreprises norvégiennes. Et bah, comme on va le voir à Plouisy, hein, ils s'installent sur des terres agricoles pour mettre leurs gros bâtiments avec les grosses bassines en béton. Pour eux, bah, c'est, comme on le voit là, hein, c'est un affranchissement des problèmes de virus et de métaux lourds qu'il y a dans les élevages en mer. Et en plus, ça leur permet de nous vendre leurs solutions high-tech comme écolo. Ça s'appelle, donc, on l'a entendu, RAS, R-A-S, pour Recirculating Aquaculture System ou système piscicole en circuit recirculé. Toute cette grosse novlangue high-tech, c'est pour nous dire que, bah, en gros, ils vont tout contrôler de A à Z. C'est un peu comme ce qu'on a vu pour les cochons ou les poulets par ici. Hein. Maintenant, c'est très, très automatisé. Donc, on contrôle le pH, le taux d'oxygène, le taux d'oxyde de carbone, le taux d'azote ammoniacal et la température. Et donc, bah, le problème, comme tu disais, Caro, c'est que les millions de saumons qui sont dans les cuves, bah, ils font caca. Donc, on envoie tout ça dans des gros filtres, des machines qui sont capables de filtrer des centaines de mètres cubes par heure. Et ensuite, on tue les bactéries aussi avec des rayons ultraviolets. Ces systèmes, ils ne sont pas capables de filtrer complètement, de nettoyer complètement. Et du coup, bah, l'eau, elle est encore un peu polluée. Malheureusement, on en rebalance encore un peu dans les rivières. Un autre inconvénient, c'est que le haut niveau de technologie, ça implique que y a un gros besoin de main d'œuvre hyper qualifiée. Et on a vu dans les préconisations des cabinets de conseil sur les systèmes comme ça là, ils insistent sur la formation du personnel, sur des systèmes d'alarme, etc. Et c'est des problèmes aussi sur si jamais il y a une panne, c'est des grosses catastrophes, des millions de saumons qui meurent, qu'il faut balancer. C'est un peu ce qu'on voit aussi dans l'élevage industriel, quoi.
Mais du coup, tu veux dire que les emplois là-bas, c'est des emplois très qualifiés et assez spécifiques, en fait, et que quand ils nous font la promesse d'embaucher énormément de monde, en fait, là, ce que tu décris, c'est des boîtes qui ont besoin d'emplois quand même un peu qualifiés d'ingénierie, quoi, pour régler ces machines,
je crois que c'est
etc.
Ça, hein.
Quoi.
Et moi, j'avais une petite question sur le système qui recycle l'eau. Donc, tu parlais, en fait, c'est comme s'il y avait une propre station d'épuration au sein de l'entreprise, quoi,
ouais,
de la ferme aquacole, je crois, ou un truc comme ça. Et sauf que celle de Smart Salmon, elle s'appelle Aquamof, et c'est une entreprise israélienne qui est un petit peu avec quelques casseroles, parce que si on en croit son historique, en fait, c'est des colons juifs qui se sont installés sur les terres palestiniennes, et cette entreprise aujourd'hui n'est pas très vertueuse, on pense, dans sa manière de fonctionner, dans les lieux où elle est implantée. Donc bon, c'est pas tant sur la technologie en elle-même, mais globalement sur les questions politiques de où elle vient et comment elle a été implantée en Palestine à la place des Palestiniens. Bon, ça pose quand même un peu question, quoi, globalement, politiquement.
Ouais. Alors, on va enchaîner, du coup, avec un artiste norvégien qui s'appelle Royksopp. On écoute Night Out avant d'enchaîner sur Plouizy, la fameuse usine à saumon qui pourrait ouvrir.
Ou pas.
Aujourd'hui, parce que nous sommes opposés au projet de ferme-usine de saumon que le groupe norvégien Smart Salmon a prévu d'implanter à Plouizy, à Kérisac, avec l'aval des élus de Guingamp-Paimpol Agglomération qui leur ont majoritairement donné un blanc-seing le 1er juin 2021. Alors, nous, je vais vous dire pas d'un signe merci, on est hyper inquiets. Parce qu'on sait qu'il y a un concours qui a été lancé des 5 projets les plus débiles en France. Et on craint qu'avec votre usine à saumon, ben vous nous détrôniez, quoi. Parce que là, concrètement, l'idée de foutre des saumons dans des cuves à béton, dans un territoire qui a déjà surchauffé cet été et qui va surchauffer à nouveau,
de mettre des systèmes de réfrigération, de retraitement de l'eau pour faire du saumon, alors qu'il y a des saumons dans la rivière. Franchement, on est inquiets. C'est vous qui allez être en haut du podium, chers amis.
Ce projet, c'est 10 hectares de bonnes terres agricoles bitumées ou bétonnées. Pour produire les 8000 tonnes de saumon prévues, c'est 600 mètres cubes d'eau consommée tous les jours, malgré un système de circulation d'eau vanté par Smart Salmon. Ce système, très gourmand en énergie, représenterait la consommation d'une ville de 11 000 habitants. Même les panneaux solaires prévus sur leur usine ne produiraient que 10% des besoins, les 90% restants venant du nucléaire. Et bien sûr, comme toute production animale, il y a les déchets riches en azote qui viendraient s'ajouter aux excédents qui polluent toutes les eaux, des rivières jusqu'à la mer. Quand on souhaite installer une usine agro, telle que l'usine à saumon qui nous occupe, tout comme Bridor à Liffré ou les méga-bassines dans le Poitou, deux arguments reviennent. Nourrir le monde et créer des emplois.
Du saumon dans du béton, c'est une idée à la con.
Pour nourrir les saumons, il faut un aliment composé en bonne partie de farine de poisson qui sont pêchées notamment sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, privant les peuples côtiers d'une des bases de leur alimentation. L'histoire se répète. Le pillage, le vol des ressources restent encore les meilleurs moyens pour s'enrichir. Tous ces trusts de l'agroalimentaire prétendent nourrir le monde. Mais c'est vouloir ignorer qu'une bonne partie des humains se nourrissent de la production de petits agriculteurs soumis à la pression des multinationales de l'agro.
Du saumon, non, du béton, c'est une idée à la con.
Et l'emploi.
Si on observe bien le rapport entre emploi créé et le tonnage produit dans les pays du Nord comme la Norvège, il faudrait plutôt penser à moitié moins d'emplois. L'entreprise israélienne, celle-là même qui a conçu le système d'exploitation, se targue d'un dispositif conçu pour limiter fortement la charge salariale.
Cette usine à saumon, on n'en a pas besoin, on n'en a pas envie. Elle poursuit en version XXL la destruction de l'environnement. Elle accapare les terres agricoles, elle bétonne, elle pollue, elle privatise la ressource fragile en eau, elle maltraite les animaux, elle favorise la pêche industrielle. Des projets comme ça, c'est terminé. Pas d'usine à saumon, ni à Plouizy, ni ailleurs.
Ok, nous revoilà sur le plateau.
Oui, alors on est en compagnie de Jean Sarrazin du collectif d'Uruguay. Jean, est-ce que tu nous entends bien ?
Oui, parfaitement là.
Ok, bon, nous aussi on t'entend, ça marche. On est sur le plateau de l'émission Du pain et des parpaings et tu vas représenter le collectif d'Uruguay pour répondre à quelques questions sur le projet d'implantation de l'entreprise norvégienne Smart Salmon à Plouizy, dans les Côtes d'Armor près de Guingamp. Donc tu pourrais nous parler d'un dialogue qui a été initié entre les élus locaux et les dirigeants de Smart Salmon depuis maintenant 6 ans, avec l'intention d'aboutir sur un projet de vente de terres agricoles où s'implanterait donc une ferme-usine avec des bâtiments et des piscines en béton qui s'étaleraient sur 10 hectares, soit 14 terrains de foot, dotés d'un circuit capable de recycler et retraiter l'eau à l'aide d'une technologie de pointe dont on a parlé tout à l'heure ensemble, et qui produirait 8000 tonnes de saumon par an. Et en comparaison, le tonnage annuel débarqué à Lorient est de 18000 tonnes, pour que les auditeuristes puissent un peu voir l'ampleur du phénomène. Alors Jean, on voulait commencer par te poser une question assez simple. Concrètement, ça voudrait dire quoi l'implantation de Smart Salmon à Plouizy en termes de conséquences environnementales et sanitaires ?
Bah, c'est une aberration, puisque le saumon vit dans les rivières et en mer, mais pas en pleine terre. On fait un projet qui est complètement déconnecté. C'est un projet technocratique. Et en plus, on se demande pourquoi ils ont choisi Plouizy. C'est du saumon dans du béton, c'est aberrant. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Ils vont artificialiser 10 hectares de terres agricoles. Ils vont pomper 600 mètres cubes d'eau à minima. Ils vont rejeter de l'eau. c'est un... Et leur seul justificatif, c'est on va créer des emplois. Sauf que dans l'agglomération de Guingamp, eh ben, toutes les boîtes de l'agroalimentaire cherchent du monde. Donna, la fameuse boîte de sandwich, ils n'arrivent pas à recruter parce qu'ils ne payent pas assez. C'est des emplois dans le froid, des emplois pénibles. Donc, créer des emplois dans un secteur où les autres boîtes n'arrivent pas à embaucher, c'est aussi aberrant.
Bah ouais, complètement. Et puis, avant de t'appeler, là, on parlait de ce modèle-là, où justement, comme c'est une ferme super technologique, avec un système de surveillance des machines, de la température, de la pression, etc. En fait, c'est en plus des emplois un peu... comment on dit
seulement d'ingénieurs, en fait, ouais. Ultra qualifiés, pas du tout d'ouvriers ou d'ouvrières agricoles.
Oui, c'est ça. Oui, donc,
Et il y aura quand même, eux, ce qu'ils prévoient, c'est quand même des emplois pour après, pour des emplois non qualifiés, mais pour découper le poisson et le mettre en filet.
Ah oui, parce que ce serait aussi de la transformation sur place, quoi. C'est ce qu'on appelle le circuit intégré, quoi.
Pour avoir entre 50 et 100 emplois, c'est pas que de la surveillance, hein. C'est aussi façonner le poisson.
Pour qu'ils sortent en filet, alors qu'il n'est même pas rentré dans l'usine parce que les œufs ont été élevés, artificiellement à l'intérieur de l'usine, quoi.
Pour les œufs, on ne sait pas trop. Il y a eu plusieurs versions. Il y en a. À un moment donné, on a dit qu'ils venaient d'Écosse. Après, qu'ils allaient tout faire sur place. C'est un peu le flou là-dessus sur les œufs.
Mais c'est vrai que c'est complètement absurde. Sur Internet, on regardait, là, c'est pas au Qatar, mais c'est à Dubaï qu'il y a une entreprise comme ça d'élevage de saumon bio. Et donc, c'est en plein désert, il fait 50 degrés dehors. Et puis, eux, ils ont leur tiroir où ils élèvent du saumon, avec des refroidisseurs. Enfin, c'est complètement...
Dans le désert. Ils élèvent des saumons dans le désert.
Voilà, et c'est du saumon bio. Et donc, on voit des clientes et des clients des poissonneries là-bas dire « Ah bah oui, c'est bien parce que c'est du local. » Ouais, d'accord. et en plus, du coup, du local, là, Smart Salmon se vante d'être éco-responsable et vertueux. Mais du coup, comment est-ce que tu penses qu'ils peuvent défendre cette excellence environnementale alors que c'est complètement de l'agro-business? Est-ce que tu as une idée?
C'est-à-dire qu'eux, ils nous vendent un système qui s'appelle l'ARS, qui est théoriquement un circuit fermé. Alors moi, je ne suis pas un grand scientifique, mais là, je suis un peu bête. Moi, ma voiture, le refroidissement de ma voiture, c'est un circuit fermé. Je ne mets jamais rien. Mais eux, ils sont en train d'inventer un circuit fermé où on met de l'eau et on rejette. Donc, a priori, c'est plus un circuit fermé. De toute façon, ils n'ont jamais fait un élevage de cette taille-là. En Pologne, il y en a un qui existe, mais qui ne fait que 400 tonnes. Là, on est parti sur 8000 tonnes. Donc, c'est quelque chose de monstrueux. On ne sait même pas si technologiquement, ça va marcher. La boîte qui fait ça, c'est une boîte israélienne à Aquamaof, mais qui sont des très bons vendeurs commerciaux. Maintenant, techniquement, c'est aussi un peu inquiétant quand même ce genre de projet. Tout ça pour faire un produit médiocre. Hein. Là, sur Ouest France ce matin, il y a un rappel de l'eau de saumon fumé qui ont de la listeria. Donc, avec ce système industriel, on fait des produits médiocres et dangereux pour la santé. Et qui ont moins d'oméga 3, parce que ce qu'on nous dit, c'est manger du saumon, vous mangez des oméga 3. Certes, mais dans du saumon sauvage, oui. Mais du saumon industriel, non. Parce que pour que le saumon ait de l'oméga 3, il faudrait qu'il mange de la farine de poisson en quantité. Or, maintenant, on donne de moins en moins de farine de poisson parce que ça commence à... La farine de poisson, ça commence à faire jaser parce que pour nourrir les pays occidentaux, on affame l'Afrique ou l'Amérique latine en piquant leurs poissons. Donc maintenant, il y a de moins en moins de farine de poisson dans l'alimentation. Mais ça veut dire qu'il y a aussi moins d'oméga 3. Donc on est sur un produit médiocre au final.
D'accord. Pardon, ouais, moi je voulais te poser une question sur la gestion de l'eau au niveau de ces systèmes. Donc il y a Il y aurait sûrement des pollutions en sortie, c'est-à-dire que même si l'eau est hyper surveillée, retraitée, recyclée, on se disait tout à l'heure en plateau, s'il y a des pannes ou des problèmes d'avarie, il y aurait quand même des rejets potentiels dans le milieu naturel. Donc comment Smart Salmon se positionne pour garantir qu'il y ait zéro émission dans les rivières et dans la mer par la suite ?
Ah ben, eux disent qu'ils vont faire des analyses, mais il y a déjà un gros souci, c'est que le saumon adulte, il vit dans de l'eau salée, dans de l'eau de mer. Et donc, s'ils veulent rejeter de l'eau, il faudrait qu'il a des salles, ce qui va coûter une énergie formidable. Alors, ils affirment aussi qu'ils n'utiliseront pas d'antibiotiques. C'est que des dires. Par contre, ils vaccineront leurs poissons. Quand ils sont tout petits, ils seraient vaccinés et immunisés. Moi, ça, j'y crois pas. Rien ne dit que s'il y a une épidémie et tout, ils mettront pas des antibiotiques. Parce que au début, ils ont dit, ah ben, on fera de la méthanisation. Après, ils ont dit, ah ben, on fera de l'aquaponie. Ça a disparu. Bon, la méthanisation, c'était ambigu. L'aquaponie, on n'a jamais compris ce qu'on pouvait faire avec de l'eau salée, à part cultiver des algues. Donc là, maintenant, ils vont rejeter une eau. Mais alors, si l'eau est si pure que ça qu'ils rejettent, pourquoi ils ne la réutilisent pas? Il y a déjà un gros souci, parce que ça va être de l'eau osmosée qui n'aura plus aucune valeur. Alors, si elle va dans le trieux qui est déjà fragilisé, ça ne va pas. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est la réaction des conchyliculteurs qui sont à fond contre le projet, parce qu'ils s'aperçoivent qu'eux, ils sont à l'estuaire du trieux, bah, que toute la production d'huîtres et tout risque de souffrir. On est dans un milieu fragile. Ils savent pas quoi faire de l'eau. Là, on est avec des apprentis sorciers, là.
Ouais, donc en fait, vous nous dites qu'ils vont avec des nouvelles technologies donc de cette entreprise israélienne faire une espèce de coup d'essai d'une usine monstrueuse, quoi, dont ils vont devoir donc saler l'eau à l'entrée et dessaler l'eau à la sortie.
Et ben oui, parce que en fait, le saumon, quand il est petit, il vit dans l'eau douce. Hein. Les saumons, ils naissent dans les rivières, donc ils vivent dans l'eau douce. Et après, le saumon vit dans l'eau salée. Donc, il faudra, sur le site, qu'il y ait à la fois de l'eau douce et de l'eau salée.
Ouais, d'accord.
Mais ils ont un gros souci avec cette fameuse eau salée, parce qu'en plus, je ne sais pas si quand on met du sel dans de l'eau, ça fait de l'eau de mer. Moi, j'en suis pas sûr.
Ouais, donc en fait, c'est comme si on voudrait faire du poisson soi-disant éco-responsable pour nourrir le monde, que tout le monde soit en bonne santé, y compris l'environnement, mais avec une consommation énergétique de dingue, aucune sobriété par rapport aux émissions, aux effluents et aux pollutions possibles. Donc en fait, c'est un modèle qui est complètement hypocrite. On sent que c'est complètement du greenwashing, en fait, leur histoire.
Ben, c'est un problème pour se faire de l'argent, parce qu'apparemment... En Norvège, c'est un des pays les plus riches au monde, hein, la Norvège. Ils ont deux grosses productions, le pétrole et le saumon. Le saumon, ils peuvent plus en faire puisqu'ils ont pollué tous les fjords de Norvège quasiment. Donc maintenant, ils viennent en Europe. Puisque la Norvège ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc ils viennent dans les pays européens, dont la France. Pourquoi la France? Je sais pas. Et donc ils espèrent aussi toucher des subventions de l'Europe. Alors moi, qu'on donne des subventions à des pays très riches, ça pose aussi un problème.
Ouais.
Et en plus, à l'heure actuelle, Smart Salmon n'a pas le financement pour l'installation. Puisqu'on parle de centaines de millions, ils ne sont toujours pas introduits en bourse, ils cherchent toujours le financement.
Nous, on a une petite idée sur pourquoi ils s'installent en France. On était tombé sur une vidéo dont parlait Romain, je crois, tout à l'heure, une interview de... du PDG de Pure Salmon, donc c'est pas Smart Salmon, mais bon, ça y ressemble beaucoup, qui était interrogé par BFM et qui disait que la France leur facilitait quand même pas mal la vie sur les lourdeurs administratives. La journaliste de BFM insistait bien en disant « Oh, la France, c'est quand même pas facile, il y a plein d'exigences administratives. » Et lui, il répondait « Oh, non, ça va, la France nous a beaucoup, beaucoup aidé là-dessus. » Et donc, on comprenait assez facilement que ça va, quoi. Ils avaient fait sauter pas mal de verrous juridiques et d'aide. Enfin, ils les avaient bien aidés pour l'installation, quoi.
De toute façon, ils n'ont pas trop de soucis à se faire. Les préfets bretons valident tous les élevages industriels, quasiment tout.
D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu comment c'est né le projet justement à Plouisy, un peu les liens qu'il y a entre Smart Salmon et puis les institutions locales, notamment avec Guingamp, Paimpol, agglomération, et puis la préfecture, et puis aussi peut-être comment les habitants et habitantes sont inclus dans le débat.
Eh bien, il n'y a jamais eu de débat public. Pendant 5 ans, c'était des tractations entre Smart Salmon et les élus. On n'en a rien su. Ça s'est su assez tardivement, quand il y a eu le fameux vote de juin l'année dernière pour voter le compromis de vente. Mais alors, ce qui est absolument effarant, c'est que les élus... Ils disent maintenant, on a voté un compromis de vente, c'est tout, on ne savait pas qu'il allait avoir une usine. Donc, ils n'ont même pas eu toute l'information, ce qui est à moitié vrai, parce que quand on regarde l'enregistrement vidéo de cette fameuse réunion où le compromis de vente a été voté, il y a quand même eu quelques débats, mais bon, pas trop. Donc, les élus, de toute façon, on vote plein de choses, donc, Et puis, il ne faut pas se faire mal voir non plus de GPA pour avoir des subventions pour notre commune. On vote. Alors, les élus, maintenant, sont en train un peu de changer. Il y en a quelques-uns qui ont annoncé qu'ils voteraient contre le projet, dont la maire de Paimpol, le maire de Plouisy. Ce matin, c'était le maire de Grasse aussi. Il y a eu le maire de Saint-Agathon. Donc, il y a un certain nombre de maires qui se révoltent contre le projet.
Et quel poids ils ont sur ce projet, en fait? On a vu que la semaine dernière, du coup, le conseil municipal de Plouisy avait voté contre le projet, mais on a l'impression que c'est plutôt dans les mains de Guingamp, Paimpol, agglomération, puisque c'est eux qui sont propriétaires, enfin, qui ont vendu le terrain.
Oui, mais ça sera quand même le maire qui signera le permis de construire. Alors apparemment, d'après ce qu'on en sait, même s'il ne voulait pas signer le permis de construire, comme c'est une ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement, la préfecture pourrait passer outre, d'après ce qu'on en sait. Bon, alors, c'est quand même le maire de Plouisy. Pendant longtemps, il était pour le projet. Il a voté le compromis de vente aussi. Alors, les élus, ils sont en train d'évoluer dans le bon sens. Tant mieux. Enfin, ils se réveillent un peu tard. Alors, il y en a qui sont contre l'usine, et il y en a aussi qui sont contre la méthode employée, parce que Guingamp Paimpol fait du forcing. Ils ont failli offrir un voyage en Pologne à certains élus pour aller voir cette fameuse usine, quand même.
Ouais, parce que ce qu'on peut quand même dire, Jean, là, c'est que on est en train d'enregistrer cette 5e émission de Dupin et des Parpaings, et on est le 27 janvier. Donc à l'heure où elle va être écoutée par beaucoup, peut-être qu'il y aura eu un rebondissement, parce que le 2 février, il y a le Conseil communautaire, donc là où justement va être discuté et remis sur la table ce sujet de vente du terrain, c'est ça ?
Oui, mais on ne sait toujours pas quel texte va être voté. Est-ce que c'est donner les pleins pouvoirs au président de GPA ? Est-ce que c'est revoter la vente ? Est-ce que c'est être pour ou contre le projet ? Moi, je me méfie pour savoir quelle question va être posée.
Et est-ce que tu penses que la mobilisation qu'il y a eu avec les milliers de personnes qui étaient présentes à Guingamp il y a un mois et demi de ça a permis de faire pression ou du moins d'ouvrir le débat publiquement, justement, pour que le jeu des élus locaux et de la préfecture soit un peu mis à nu?
De toute façon, toutes les actions qu'on a faites depuis un an et demi, ça a aidé. Alors, parallèlement, il y a d'autres associations, aux Rivières et la Confédération Paysanne, qui ont choisi, eux, d'aller rencontrer les élus, de discuter avec eux. Donc, la démarche du collectif et la démarche de ces deux associations sont complémentaires. Après, je ne sais pas celle qui aura la plus grande influence, mais il y a quand même un débat. Alors, maintenant, la population, si on faisait un référendum, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais bon, c'est pas... C'est un projet comme d'autres projets industriels qui n'est pas dans la transparence. Je ne comprends pas pourquoi ils font pas ça. Pourquoi le site de Plouisy? Parce qu'on a dit que c'était près de Paris. C'est quand même à 500 km. Hein. Bon, il y a une 4-voie à côté, une voie de chemin de fer. Enfin, bon, je pense qu'aussi, un certain nombre d'industriels de l'agroalimentaire de Guingamp voit un très bon œil cette installation pour alimenter leurs usines de surgelés. C'est aussi ça, hein. Il y a tout un contexte sur Guingamp de l'agroalimentaire.
Ouais, et puis ce qu'on n'a pas dit, et puis ce qu'on n'a pas dit non plus dans le début de l'émission avant de t'appeler, c'est qu'en fait, ces saumons sont principalement élevés en Norvège et transformés en Union européenne, en tout cas en Pologne et beaucoup en France et notamment dans le Finistère. Et le Finistère est un peu spécialisé dans la transformation du poisson d'élevage et notamment du saumon, et depuis quelques années ça. Et donc il y a effectivement des liens très très proches entre cette économie-là et l'élevage directement, quoi.
Oui, non, mais c'est le problème de l'agglomération de Guingamp par rapport à Lannion qui est tout proche. À Lannion, ils ont réussi à diversifier, puisque pendant un temps Lannion c'était que les télécoms. Ils ont réussi à diversifier l'emploi. Là sur Guingamp, les élus ils restent bloqués sur l'agroalimentaire. C'est assez surprenant, comme mais c'est lié sans doute à certaines personnes qui sont à la tête de ça.
Mm-mm. Et Dourioguay, ça veut dire quoi?
Eau sauvage en breton.
Et on dit Dourioguay ou Dourioguaise? On s'est posé la question.
Dans le Trégor, on dit Dourioguay.
Ah, d'accord.
Apparemment, du côté de Vannes, ils diraient autre chose. Mais bon, nous, on dit Dourioguay par chez nous. Mais bon, c'est pas... Donc, c'est un nom qui est sympa, qu'on a choisi.
Et oui, qui est bienvenu à ce niveau-là. Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots les actions qui ont été faites par le collectif et d'autres? Là, tu parlais d'Eau et Rivières de Bretagne et de la Confédération Paysanne. Il y a aussi Reprendre la Terre aux Machines qui a appuyé la lutte. Est-ce que tu peux nous rappeler les grandes dates un peu du collectif?
Oui, en fait, le collectif, il a été créé en septembre 2021. C'est une fusion de personnes assez différentes. Il y avait des anciens du collectif Douard Didoul qui avaient lutté contre les mines. Il y a eu des gens de Guingamp Climat. Il y a eu quelques habitants de Pouilly aussi qui sont venus. Donc le collectif, puis quelques autres. Donc le collectif s'est constitué comme ça. Donc on a fait plusieurs actions sur le site. On a fait des pique-niques. On a participé au carnaval de Guingamp l'année dernière et on y participe encore cette année. On a fait des collages de poissons au 1er avril.
Et oui.
Ils ne sont pas très bien passés, puisqu'on a une plainte contre X de M. Lemot, qui en fait est contre nous, qui suit son cours, mais qu'on n'a pas de nouvelles.
Qui est M. Lemot?
M. Lemot, c'est le président de GPA.
Ah,
et GPA, donc, c'est Guingamp-Paimpol agglomération, hein, c'est bien ça?
Voilà, tout à fait, Guingamp-Paimpol agglomération. Ensuite, l'été, au mois de mai, l'année dernière, on a fait un grand fest-noz avec une journée de lutte où on a eu pas mal de monde. Mm-hmm. On a fait aussi pas mal de réunions publiques dans plusieurs communes. On a fait des stands à la Fête des Jardins, à Belle-Île-en-Terre, à Biozone, à la Foire aux Courges. Et puis en décembre, il y a eu cette fameuse manifestation qui a réuni plus de 1200 personnes.
Et oui, avant...
Et une manifestation très, très, très dynamique.
On en a entendu quelques sons là avant de t'avoir au téléphone. On a passé quelques sons qui avaient été enregistrés là-bas, justement.
Et c'est à cette occasion-là que Reprendre la Bretagne aux Machines nous a rejoints pour organiser ça.
C'est bien.
C'est une synergie entre les deux. Les autres associations aux rivières, la Confédération Paysanne et le syndicat de conchyliculture, eux, ils mènent aussi leur train. C'est-à-dire qu'eux, ils ont rencontré des élus. On a peu d'écho, mais bon, c'est leur tactique, mais c'est tout à fait complémentaire. Il n'y a pas une tactique miraculeuse et d'autres pas. Mais moi, j'insiste, on sent quand même le résultat au niveau des élus. Le premier vote qui a eu lieu en juin 2021, il n'y a eu que 7 abstentions. La semaine prochaine, il y en aura plus que ça, il y aura aussi des votes contre. Parce qu'ils réunissent deux jours avant une réunion d'intercommission qui aura lieu pour un peu resserrer les boulons. Et il paraîtrait qu'il y aurait Spartan-Salmon qui viendrait cette réunion. Donc, ce n'est pas tout à fait normal, puisque les élus, ils n'auront qu'une
Pas d'association environnementale n'a été invitée en face de Smart Salmon.
Non. Okay. Personne n'a été invité. Alors, Eau-et-Rivière avait demandé à être reçu dans les commissions, ça a été refusé. Par contre, Eau-et-Rivière a rencontré le président de Guingamp-Paimpol. Le collectif a refusé de le rencontrer en disant que nous, au niveau du collectif, ce qu'on voulait, c'était une réunion publique, une réunion en tête-à-tête, ça ne donnerait rien. Donc, on reste ferme, on veut bien rencontrer les élus, mais dans une réunion publique. Pas en tête-à-tête pour faire du marchandage ou je ne sais trop quoi.
Et Jean, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que cette lutte, elle a fait effet boule de neige, c'est-à-dire que ça a commencé très localement à Plouizy et ça s'est finalement étendu sur le territoire de l'agglo en fédérant les collectifs et les associations que tu as mentionnées, mais qu'on pourrait aussi éventuellement faire le parallèle avec d'autres projets d'implantation de fermes-usines à saumon, notamment à Boulogne-sur-Mer dans le Nord et en Gironde, et qu'il y a aussi des actions militantes qui sont menées notamment par des défenseurs de l'environnement pour justement s'opposer à l'agro-business et à son modèle qui détruit la santé et l'environnement globalement. Est-ce qu'il y a des ponts ou des liens que vous avez pu avoir avec ces collectifs du nord de la France et du sud-ouest?
Ben là, on a réussi à nouveau à rétablir la liaison avec les collectifs de Gironde. Mais là-bas, c'est un peu compliqué parce qu'il y a deux collectifs. Mais bon, c'est quelque chose où on a des progrès à faire, mais ce n'est pas facile parce qu'il y a la distance géographique. En plus, pendant un temps, il y a eu le Covid. Par contre, sur Boulogne, on a plus de nouvelles. Il y a un projet qui reste, mais on n'a pas de nouvelles. Mais on est en relation avec ceux de Gironde. Mais maintenant, c'est pas tout à fait la même problématique. C'est pas la même société. C'est compliqué de faire des actions ensemble, mais ça serait sans doute un objectif, parce que ben, là le projet de Plouizy, où il va se faire ou il va pas se faire, s'il se fait pas, ben nous on arrête quoi. Il y a quand même des bruits qui courent sérieusement où Smart Salmon a un site de remplacement à Guerre-Vestin, et sur un site très différent qui est le site des anciens abattoirs d'où. Il y a eu des bruits, le maire de Guerre-Vestin a ni confirmé ni infirmé, c'est un peu compliqué, mais ça sera exactement la même problématique. Ils feront des rejets dans un affluent du Léguerre au lieu d'aller dans le Trieux. Il n'y a pas plus d'eau sur Morlaix que sur Guingamp, l'eau potable. En fait, on a eu de la chance avec la sécheresse, ça nous donne des arguments, c'était inespéré cette sécheresse de l'été dernier.
Merci le changement climatique en fait.
Bah oui, bah parce que aller prélever de l'eau alors qu'on pouvait pas laver sa voiture, ce qui est pas la chose la plus grave d'ailleurs, enfin, où il y a eu des restrictions d'eau, trouver une usine qui consomme 600 mètres cubes d'eau minimum par jour, c'est pas très foutu de la part des élus. Logiquement, s'ils avaient été responsables, ils auraient dû dire à Smart Salmon après la sécheresse, bah non, on peut pas, c'est pas possible. Et c'est pareil pour l'électricité, là on annonce des. Il a failli avoir des coupures d'électricité cet hiver. Si l'usine de saumon est plus alimentée en électricité, c'est la catastrophe. Hein. Donc, il ne faudrait pas qu'un jour on dise aux gens, ben non, vous n'avez plus d'eau pendant deux jours, ni plus d'électricité, parce qu'on priorise l'usine de saumon.
Oui, d'accord. Parce que là, j'ai retrouvé vos chiffres et ça équivaut à une population de 22 000 habitants. Donc, la consommation énergétique du potentiel projet de Smart Salmon, ça serait 22 000 habitants sur la commune de Plouizy, qui en compte, elle, peut-être, combien, juste pour savoir
de mémoire, entre 2 et 3 000.
Ah oui. Bon, bah voilà, on a un peu les échelles, je pense.
Mais les panneaux solaires, c'est aussi pour dire qu'ils sont éco-responsables et se vernir d'un... Voilà, d'une petite peinture écolo, justement, mais on sait très bien que ouais, ça leur donnerait pas beaucoup.
Et ce qui est inquiétant en plus, c'est que là, il y a 10 hectares qui sont de la terre qui est cultivée actuellement, et en fait, ils n'utiliseraient que 5 hectares au début. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent s'agrandir. Ils ne vont pas utiliser les 10 hectares au début. Donc, il y a une possibilité d'agrandissement possible. Parce qu'au début, ils étaient quand même partis sur 20 000 tonnes de saumon.
Ah oui.
Et après, ça a baissé. Maintenant, on est plus qu'à 8000 tonnes. Il y a un souci parce qu'on consomme toujours la même quantité d'eau pour 20 000 ou pour 8 000. C'est toujours.
Mais comment ça se fait que Smart Salmon a revu ses chiffres à la baisse ? Tu penses que c'est les élus ou la préfecture qui lui ont demandé d'être plus raisonnable ? Ou c'est quoi la raison de cette baisse ?
Ils se sont aperçus que les 20 000 tonnes de saumon, c'était monstrueux, que c'était ingérable au niveau sanitaire. Et puis, il faut trouver aussi les débouchés. Hein. La France est le principal consommateur de saumon d'Europe, mais enfin, quand même, les Français, ils vont pas manger du saumon 4 fois la semaine, parce qu'il y a aussi les projets à Boulogne et en Gironde, donc ça va pas.
Et puis il y a du poulet aussi, en batterie à manger, il y a des cochons d'élevage de Bretagne, etc.
Au niveau du chiffre, il y a une ferme marine dans le Trieux qui vient d'arrêter parce que les gens partent à la retraite. Ils faisaient 20 tonnes de saumon par an, maximum. Entre 18 et 20 tonnes de saumon de truite, pardon. Ça donne. Et là, effectivement, des exploitations aquacoles qui font 18 tonnes, 20 tonnes, au niveau de l'environnement, c'est gérable. Mais entre 18 et la production de Smart Salmon, il y a un écart gigantesque qui n'est pas possible.
Ok. Bah écoute, Jean, nous, on voit que le temps file et on va devoir s'arrêter là pour l'interview plateau. On voulait te remercier pour le temps que tu as pris pour répondre à nos questions.
D'accord, merci et puis bon courage.
Hein. Bah merci beaucoup, merci. Jean. À bientôt.
Merci. Bientôt. Allez, au revoir.
Au revoir.
Allez,
allez.
I'm back in the weeks, make my kids a repeat and take on the white and the five old dice. I want all beads and dick cracking and all with your brain and spine and whiz. I fight on the white and the base of rack more with the bite, it's fine and whiz. And in that but with right bang of a say, up for my bride and space, right on the way. Mine and dig a big, it's right, make some bets. To break now with the being freezing and I come away by his fine day. You right on the weeks by dreaming, if I can survive for winning that truth. Right now I'm always the bite and if I start winning by fights. Oh my, come on my brain.
Bon, bah en tout cas, on en a des arguments pour lutter contre cette usine ici ou ailleurs, parce qu'on a quand même eu l'exclu que peut-être 40 km plus loin, ils iraient essayer de tenter le coup. Voilà, mais on y sera encore, à Guerre-Lesquin. Voilà, du coup, c'est tout pour cette émission aujourd'hui. C'était la 5e de Dupin et des Parpaings. On se retrouve dans un mois, fin février, le dernier dimanche à 19h pour parler
forêt.
D'arbres, d'industrie aussi au milieu de cette forêt qu'on
avec
imagine.
Avec des invités spéciaux et spéciales.
Exactement, d'ici là, tous les dimanches sur Radio Piquet à 19h, il y a un créneau écologie politique, donc on parlera pas mal extractivisme ce mois-ci. Mines, etc. Donc restez à l'écoute. Voilà, c'était dense. On a appris plein de choses sur le saumon, ce poisson argenté qui modifie sa morphologie quand même au cours de sa vie pour adapter ses organes pour filtrer l'eau de mer à un moment de sa vie. C'est quand même pas ouf, ça.
C'est et pour incroyable. Se retransformer après pour pouvoir remonter dans les eaux douces.
Et aller pondre à l'endroit où il est né, quoi, à des milliers de kilomètres.
Juste à l'odeur, juste au pif.
C'est complètement dingue. Et ben, bravo les saumons, et merci tout le monde, on se retrouve dans un mois.
Bloup, bloup.
On se quitte sur El Maout, serré comme des sardines. À bientôt.
Ciao. I'm a mic, so break no more way, pacing fire.